À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, cette rubrique en forme de jeu culturel vous permet de tester vos connaissances en littérature française. Je vous donne 10 indices biographiques. Fernand Guillot vous lira 10 lignes et même un peu plus cette fois-ci. Et en moins de 10 minutes, je suis sûre que vous aurez découvert de quel auteur il s'agit. Et rassurez-vous, c'est un grand nom de la littérature française. Il fut bien sûr académicien. Alors vous êtes prêts ? À vous de jouer. Voici le premier indice. Lorsqu'il fut élu à l'Académie française, au fauteuil numéro 24... il dut prononcer, comme il est d'usage, l'éloge de son prédécesseur et non des moindres, le grand Colbert. Mais il fut préféré dans cette élection à Boileau. Et cependant, puisque Boileau avait déjà essuyé deux échecs, finalement le roi Louis XIV donna son approbation pour que les deux soient élus en 1684. Alors ça y est, vous avez déjà le siècle. Deuxième indice, notre auteur est né à Château-Thierry en juillet 1621 et pour vivre, il achète une charge de maître des eaux et forêts. La nature tient d'ailleurs dans son œuvre une place prépondérante. Goûtez ces jolies phrases.
Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Un amateur de jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs, fermé cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue.
On a presque envie déjà de savoir de qui il s'agit. Troisième indice. On raconte que le roi fut toujours indifférent à son talent. Et bien que son œuvre principale ait été appréciée par quelques-uns, elle fut généralement peu goûtée par ses contemporains. Ce qui ne l'empêchait pas, évidemment, d'être appréciée par ses amis, particulièrement Boileau et Racine, tous deux académiciens d'ailleurs, et par Molière aussi, qui lui ne l'était pas, et d'être invité par le grand Condé au château de Chantilly, et durant 20 ans d'être le protégé de Fouquet et de Madame de la Sablière, femme du monde, curieuse de science et de philosophie. Alors, quatrième indice sur la méthode de notre auteur, elle est simple. Il utilise la satire, le contraste, la comparaison et le tout en vers, bien entendu. Il l'explique lui-même.
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec les bras d'Hercule. J'oppose quelquefois par une double image le vice à la vertu, la sottise au bon sens.
On aura compris comment il procède. Cinquième indice, les animaux justement dont il se sert pour instruire les hommes, comme il le dit, ils sont légions. La belette, le rat, la fourmi, le lion, le pigeon, l'ours, la tortue, le renard, bref, aucune bête ou presque n'échappe à son talent, mais les humains aussi font partie de sa palette. Le savetier, le paysan, le bûcheron, le laboureur, le vieillard, le mourant, on ne saurait les citer tous. Alors, sixième indice, la source de son inspiration, le grec Ésope, 6e siècle avant Jésus-Christ, les vers latins de Phèdre, 1er siècle après Jésus-Christ, et même l'Indien Pilpé, dont le livre des Lumières venait d'être traduit en français en 1644, mais on pourrait citer aussi Boccace, l'Arioste, etc. Septième indice, notre auteur caché ne traduit pas, il adapte, il y met du sien, et entre guillemets, « sans scrupule et sans crainte », dit-il. Il retranche, il amplifie, il change les incidents et toujours, toujours à la fin, il donne une leçon. Il faut que celui qui lit, qui écoute et même qui apprend par cœur, ce que tous les enfants de France ont fait, Fernand et moi y compris, doit dégager une morale de son texte. Il donne même des conseils simples.
« Le moins qu'on peut laisser de prise aux dents d'autrui, c'est le mieux ». Il ne faut pas juger les gens sur l'apparence. La méfiance est mère de la sûreté. En toute chose, il faut considérer la fin. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
On on les connaît toutes ces phrases, n'est-ce pas ? Huitième indice, ce que l'on sait moins sur notre auteur caché, c'est qu'il s'intéressait aussi à la science. Dans ses textes, il traite aussi bien de l'illusion des sens que de la fausse croyance en l'astrologie et il proclame la liberté de l'homme tout en reconnaissant la force du naturel et l'influence de l'éducation. Mais la question qu'il traite avec le plus de flamme, c'est celle de l'âme des bêtes, réfutant la théorie de Descartes. Non, les animaux ne sont pas des machines et nul ne saurait leur dénier une forme d'intelligence. Alors, neuvième indice, et maintenant, pour notre plaisir à tous, la lecture d'un de ses textes les plus emplis de sagesse, Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes.
Un octogénaire planté. Passe encore de bâtir, mais planter à cet âge, disaient trois jouvenceaux, enfants du voisinage, assurément il radotait. Car au nom des dieux, je vous prie, quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées, quittez le long espoir et les vastes pensées, tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, repartit le vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs-blêmes de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement ? Mes arrière-neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port, allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter aux grandes dignités dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et, pleuré du vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter.
Merci Fernand Guillot. Évidemment, vous avez tous reconnu le talent de notre auteur caché dans cette fable. Mais un dernier indice, le dixième et le dernier que je vais vous donner, se sentant gravement malade, notre auteur, sur l'insistance du confesseur appelé à son chevet, fit sa contrition d'avoir écrit les contes en présence d'une délégation d'académiciens d'ailleurs. Il renie sa propre œuvre. Et pourtant, ce ne sont pas ses contes et nouvelles, pas plus que son recueil de poésie chrétienne, ni même ses pièces dramatiques qui l'ont fait entrer dans la postérité. Ce sont ses fables, qui ne constituent pourtant qu'une petite partie de son œuvre, mais qui le rendirent immortel au moins autant que l'Académie. Alors vous l'avez deviné, bien sûr, c'est Jean de La Fontaine. Nous n'avons pas voulu vous lire Le Corbeau et le Renard, ni Le Lièvre et la Tortue, ni La Cigale et la Fourmi, ça aurait vraiment été trop facile, mais vous avez tout de même découvert et reconnu Jean de La Fontaine dans notre auteur caché. À bientôt pour une autre émission, L'Auteur caché.